Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre ce soir. Mais où est passée la disruption ? Il y a un an exactement, nous posions la question suivante en guise de dernière émission du Club des Idées du Grain. Est-ce que rien ne s'est passé comme prévu ? Il s'agissait de solder provisoirement une année politique pleine de surprises, de rebondissements marqués par l'élimination des principaux favoris de la présidentielle et le profond renouvellement de l'Assemblée nationale. Une page se tournait, rien ne serait plus comme avant. Nous avions fait l'expérience de la disruption. La disruption, un processus positif de destruction créatrice, c'est une de ses définitions. Appliquée au monde politique, il s'agit d'acter le passage d'un modèle à un autre, le nouveau étant censé être plus moderne car profondément novateur. Nouvelle façon de faire de la politique, nouvelle façon de penser des clivages, nouvelle façon d'envisager la société. Alors en un an, il s'est passé beaucoup de choses, mais la promesse de disruption a-t-elle vraiment été au rendez-vous ? Surtout, n'est-elle pas venue de là où on ne l'attendait pas, à savoir d'un fait divers devenu en quelques semaines seulement, le déclencheur d'un bouleversement dont on peine encore à mesurer les effets, la fameuse affaire Weinstein et le mouvement MeToo qui s'en est suivi. Mais où est passée la disruption ? C'est donc la question que nous allons poser ce soir, et c'est une émission de gala, puisque c'est la dernière de la saison, en compagnie des quatre membres de notre club. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous êtes enseignante à Sciences Po. Sylvain Avourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
La suite dans les idées, c'est tous les samedis sur France Culture à 12h45, et c'est aussi le site AOC Analyse Opinion Critique. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir
le
à tous.
Tour du monde des idées, c'est également sur France Culture du lundi au vendredi à 11h53. J'ai dit que vous étiez quatre, pour l'instant vous n'êtes que trois, mais où est passée, non pas la disruption, mais Aude Lancelin, elle est dans les bouchons, nous dit-on.
Ah non, elle arrive.
Là, voilà. Aude Lancelin, bonsoir. Anastasia, vous pouvez répondre à sa
bonsoir.
Place.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous contribuez au 1, aux médias et à Là-bas, si j'y suis. Voilà, on est au complet pour aborder donc cette dernière émission qui est une sorte de bilan de l'année, bilan politique, mais peut-être aussi au-delà à partir de ce terme de la disruption qu'on constatait donc l'an dernier suite à la séquence électorale. Implosion du système politique, nous disait-on, fini les partis, fini les clivages. Que reste-t-il aujourd'hui de cette détonation ? Brice Couturier. Ah, vous êtes surpris que je pose la question d'abord à vous.
Écoutez, pour comprendre ce qui se passe, il faut sortir du cadre strictement français, bien entendu, parce qu'il est beaucoup trop limité. La disruption, elle est en cours dans l'ensemble du monde. On a une disruption d'abord parce que... Et nous, en fait, en France, on ne fait que subir, si vous voulez, cette tectonique des plaques qui se déplace, qui depuis longtemps menaçait de rupture et qui, la rupture s'est produite également chez nous. Elle n'a pas pris les mêmes formes que dans d'autres pays et à mon avis, c'est plutôt une bonne chose. Cette disruption, c'est quoi ? C'est simplement que les anciens partis politiques de droite et de gauche qui structuraient la vie intellectuelle et politique dans notre démocratie se sont effacés et ont laissé place à d'autres types de clivages, en particulier, alors il y en a toutes sortes, hein, mais moi j'aime bien ceux qui opposent par exemple le web people au wall people. Vous m'excuserez cette utilisation de l'anglo-saxon.
Vous allez nous l'expliquer d'ailleurs.
Oui, bah alors les wall people, c'est facile, c'est les gens qui défendent l'idée qu'il faut des murs, et les web people, c'est ceux qui sont bien connectés. C'est un distinguo qui a été fait par Thomas Friedman, l'éditorialiste du New York Times, et ça recoupe dans une certaine mesure seulement, un autre clivage établi par David Goodhart entre les gens de quelque part et les gens de partout. People of anywhere, people of somewhere. On a effectivement une espèce de rupture dans nos démocraties entre des gens qui pensent que la mondialisation va trop vite, que l'ouverture des frontières est une mauvaise chose, que l'Union européenne également est porteuse de cette forme de mondialisation, et puis des gens qui pensent au contraire que parce qu'ils sont, pour des raisons sociales, ils sont bien connectés au monde tel qu'il va. Ils habitent dans des endroits proches des côtes, par exemple aux États-Unis. Et en gros, le clivage aujourd'hui, on le voit bien au Brexit, face au Brexit et face à Donald Trump, il oppose vraiment ça. C'est deux types de populations qui ont des intérêts divergents, tout simplement. Les vieilles classes ouvrières, par exemple, et puis les intellectuels de l'élite bien formée. La méritocratie, ça a été très, très clairement incarné par le conflit entre Trump et Hillary Clinton, qui est une méritocrate typique, quoi. Trump, elle n'appartenant pas à cette méritocratie. Je remarque d'ailleurs dans le livre sur les bobos qui a lancé le terme bobo, Trump, c'est un livre qui a 18 ans. Hein. Et ben, l'auteur faisait une liste des gens qui n'étaient pas des bobos, et le premier, c'était Donald Trump, il y a 18 ans, alors qu'il était inconnu. Donc vous voyez, il y a effectivement ce clivage-là. Et nous, on le vit effectivement en France de manière très différente, puisque chez nous, cette disruption a amené au pouvoir non pas un populiste, comme en Italie, en Autriche, ni un démocrate libéral comme en Turquie, comme en Hongrie, mais quelqu'un qui est en fait un centriste. C'est la particularité de notre situation, mais disruption quand même, parce que nos institutions sont faites précisément pour éviter que les centristes arrivent au pouvoir. Nos institutions sont faites pour qu'au deuxième tour, la droite et la gauche se regroupent et fassent élire l'un d'entre eux. Là, la disruption du système, elle vient du fait que finalement, c'est un centriste pro-européen qui a été élu sur la base d'une ruine des partis politiques traditionnels.
Voilà, c'était la réponse donc, de Brice Couturier à cette question assez large. Mais on va avoir évidemment l'occasion d'y revenir suite à vos interventions aux uns et aux autres. Mais où est passée la disruption? Vous l'avez vu passer où, vous, Sylvain Bourmeau?
On a vu beaucoup de destruction. Je ne suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup de création, pour reprendre la définition que vous donniez de cette disruption, c'est-à-dire destruction créatrice, en référence à Schumpeter. On a vu de la destruction parce qu'on a vu, en particulier, s'agissant de ce qui s'est passé en France, dans le cadre de cette séquence électorale, élection présidentielle, puis législative, on a vu l'affaiblissement considérable des deux principaux partis de gouvernement qui alternaient au pouvoir depuis très longtemps, le Parti socialiste et les Républicains. Et donc, ça, c'est pas rien dans le paysage politique français. C'est vrai que les deux forces qui structuraient ce paysage, qui sont les héritières de très longues années, parce que il y a eu des changements de sigle, en particulier à droite, assez fréquents, mais enfin, on peut retracer une histoire longue, et puis même pour la gauche, ça peut remonter à avant le Parti socialiste d'Épinay aussi. Donc là, il y a quelque chose de véritablement nouveau qui s'est produit. Est-ce que c'est provisoire? Est-ce que c'est une parenthèse ou est-ce que c'est durable? Je pense qu'on est parfaitement incapable, un an après l'élection, de le dire. Ce serait beaucoup trop périlleux, à mon avis, de faire un pronostic sur cette question. D'autant que...
Pourtant, on ne se privait pas de le faire l'an dernier. Enfin, quand je dis « on », c'est pas forcément nous, mais on annonçait, par exemple, la mort du Parti Socialiste.
Oui, mais je ne crois pas qu'on puisse être aussi catégorique, parce que, c'est là où je voulais en venir, il y a eu disruption, mais il n'y a pas eu création. Et si on ne peut pas être catégorique, c'est parce que précisément, après avoir détruit, ou en partie détruit, ces forces politiques, on n'a pas vu s'opérer à la place un remplacement par quelque chose dont on pourrait se dire aujourd'hui qu'il est solide, qu'il est durable, qu'il est là pour durer au moins une dizaine d'années, une vingtaine d'années. On n'en sait rien, pas davantage en fait, peut-être. Mais donc, on est dans ce processus qui a vu la destruction. Encore une fois, je ne crois pas qu'on ait entamé une reconstruction à la place. Et je n'exclus pas du tout que se reconstruisent ces deux parties, d'autant que celui qui est à l'origine de la destruction, Emmanuel Macron, est quand même dans une position relativement fragile aujourd'hui, qui se fragilise, semble-t-il, de jour en jour. Je ne suis pas sûr de me retrouver, mais ce serait un autre débat sur les clivages tels que pointés par Brice Couturier. Ou plus exactement, je pense qu'ils ne sont pas si nouveaux que ça. En fait, c'est toujours la combinatoire entre un axe qui concerne l'économique et le social d'un côté et un axe qui concerne la société ou la culture de l'autre, avec pour chacun des axes des positions ouvertes ou fermées, peut-on dire. Et c'est vrai que du coup, la division de l'espace politique en gauche-droite est trop binaire pour accueillir cette combinatoire qui est légèrement plus complexe. Donc on va voir comment les choses se produisent. Juste une dernière chose, je pense que on a eu beau voir de la destruction, on a aussi assisté par cette destruction à certaines formes de renforcement bizarrement institutionnel. Je veux dire par là que la pratique institutionnelle de Macron n'a en rien détruit la Ve République. Elle est venue consolider ce qu'il y avait de pire dans notre régime politique, dont il faut dire que c'est quand même le régime qui permet à un homme de concentrer le plus de pouvoir dans une démocratie aujourd'hui. Donc je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cela. Il y a eu des choses détruites, mais pas tout dans le paysage, loin s'en faut. Malheureusement, ce n'est pas forcément celles auxquelles on devait le plus tenir qui ont été détruites, à mon sens.
Des choses détruites, mais pas beaucoup de créations, en tout cas pour pour l'instant. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, Anastasia Colosimo, s'agissant du paysage politique, et en particulier du paysage politique français, même si on peut également étendre le constat hein, au-delà de nos frontières?
Alors, oui et non, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit à la fois Brice Couturier et Sylvain Bormeau, mais je vais quand même essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Je pense qu'effectivement, il s'est passé quelque chose en France d'assez inattendu, et en même temps, c'était pas si attendu que ça, parce que nos institutions sont faites ainsi. La France n'a pas basculé, comme vous l'avez dit, Brice Couturier, ni dans la... Enfin bon, elle n'a pas... bousculer du côté des populistes, même si j'aime pas beaucoup ce terme, et celui qui a gagné, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui appartient au web people, qui appartient plutôt à l'élite mondialisée, plutôt qu'au peuple souffrant, si on considère que la mondialisation a créé cette fracture entre peuple souffrant d'un côté et élite mondialisée très bien intégrée de l'autre. La rupture qu'il y a eu, c'est une rupture quasi personnelle, en fait, individuelle. C'est l'histoire d'un destin, celui d'Emmanuel Macron, et preuve en est d'ailleurs, puisque ça fait un an qu'on le voit au pouvoir, qu'il exerce le pouvoir assez, de manière assez solitaire, qu'il est en fait assez peu, voire mal entouré, ce qu'il sait très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que la vraie disruption, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. C'est à la fois son génie et à la fois son malheur, parce que je pense qu'il y a eu un peu de difficulté à emporter une disruption totale dans la société française qui, vraiment, je pense, n'a pas eu lieu.
Qu'est-ce qui vous fait dire juste qu'il est mal entouré ?
Non, mais je pense que c'est une aventure individuelle et qu'il n'y a qu'une personne aujourd'hui qui gouverne la France, Emmanuel Macron. On voit bien que les ministres sont complètement effacés, enfin, à part Jean-Michel Blanquer... On peut le dire. Le Premier ministre est là pour vraiment faire la politique du président de la République. Donc je ne dirais pas vraiment qu'il est mal entouré, mais en tout cas que c'est la disruption, elle vient vraiment de la personne d'Emmanuel Macron et de son accession au pouvoir, de manière effectivement assez peu traditionnelle, sans parti, rassemblant droite et gauche, etc.
Donc on pourrait parler quoi, d'une destruction qui ne procure pas, enfin, qui ne provoque pas d'innovation en termes politiques, mais qui provoque plutôt un retour à une certaine façon d'exercer le pouvoir ?
Je pense que les institutions de la Ve République, c'est ce qu'elles veulent. C'est pour ça, c'est dans cet esprit-là qu'elles ont été faites, pour que justement, il n'y ait pas de possibilité de disruption trop forte. C'était le principe des institutions de la Ve. Donc, c'est évident. Ensuite, il est un peu trop tôt pour juger aussi de la manière dont le parti En Marche va ou non émerger comme un véritable parti politique classique. Il est un peu tôt aussi pour dire quel va être le résultat des réformes engagées par le gouvernement. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le sentiment qu'on a pour l'instant, c'est qu'on fait un peu du neuf avec du vieux. Et que la disruption qui pouvait être attendue par le caractère exceptionnel de l'élection n'est pas encore arrivée.
Alors c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour poser cette question de ce qu'est devenu cette disruption, cette promesse de disruption. En tout cas, est-ce que c'est aussi votre avis, de l'ancien, ou bien est-ce qu'on peut quand même déjà établir un bilan en établissant quand même un certain nombre de certitudes, disons, par rapport à ce qu'on nous annonçait il y a un an?
Écoutez, pour ce qui est de la disruption des institutions, on voit ce qu'il en est. Elle est absolument factice. Au contraire, Sylvain Bourmeau le disait à l'instant, on observe les tares de la Ve République poussées à leurs extrêmes limites. Une présidentialisation totale, une absence de démocratisation, alors que c'était une des promesses, même si elle était largement illusoire pendant la campagne d'Emmanuel Macron, qui avait été faite. Une concentration maximale des pouvoirs, une apparence de société civile représentée à l'Assemblée, qui est en fait désormais une assemblée de presse-boutons constituée en grande partie de cadres et de représentants des classes supérieures. À ce niveau-là, il n'y a aucune disruption. Si on veut quand même trouver à cet anus horribilis, comme dirait la reine d'Angleterre, des aspects positifs, moi je les verrais plutôt dans la clarification du champ politique. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs années, plusieurs décennies même, qu'on traînait une gauche socialiste totalement renégate par rapport à ses idéaux, par rapport à ses promesses électorales, réitérées tous les 5 ans et trahies tous les 5 ans invariablement. Là, maintenant, Maintenant que le hollandisme a produit Emmanuel Macron, qu'il l'a porté au pouvoir, au moins les choses sont claires et cette affaire-là est soldée. Ces gens ne peuvent plus prétendre représenter la gauche. Ça, c'est fait, au moins. Voilà. Alors, par contre, moi, si vous voulez, la vraie disruption, peut-être la seule disruption, malheureusement, je la vois du côté des conditions de vie des Français, parce que, puisqu'on tire un bilan politique, parlons du peuple. Je pense que c'est une année assez terrible pour le peuple, avec une dégradation des conditions de travail, une attaque sans précédent sur le code du travail, une attaque massive aussi contre les services publics, le démantèlement du service ferroviaire, l'attaque de l'hôpital public, des coupes massives, les baisses des aides aux plus pauvres, un système d'orientation scolaire complètement désorienté. Et tout ça dresse un bilan assez disruptif, mais au mauvais sens du terme.
Est-ce que vous auriez un bilan disruptif au bon sens du terme, vous, Brice Couturier? J'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la dernière partie, au moins, de l'intervention de Lancelin. Mais Emmanuel Macron avait promis des réformes, il en a engagé un certain nombre. Est-ce qu'il y en a qui, pour vous, ont d'ores et déjà assez profondément changé la société française? En tout cas, est-ce qu'il y a des réformes structurelles qui ont vocation à la changer profondément?
C'est curieux parce que d'un côté, on reproche à ce gouvernement d'aller beaucoup trop vite, de réformer sans concertation suffisante, de réformer sans arrêt, de faire travailler le Parlement 24 heures sur 24, etc. Donc oui, on a rarement vu le pays était quand même dans un état de catastrophique quand les élections ont eu lieu. Un, on était au bord de la guerre civile. Quand même pas se cacher que quand on a d'un côté Marine Le Pen et de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon, il est peu probable que si l'un des deux avait été élu, le reste de la population dans sa totalité aurait accepté d'obéir à un tel président ou à une telle présidente.
Au bord de la guerre civile, c'est quand même fort. Hein,
je le pense, je le dis parce que je le pense. Je pense que le pays était véritablement au bord de la guerre civile et que si on avait assisté au deuxième tour à un combat entre les deux extrêmes, ça serait passé très mal. Donc on a eu de la chance d'éviter ce scénario. Par ailleurs, encore une fois, pour revenir à votre question initiale, le pays était dans un état de désarroi, de malheur absolument insensé. N'oublions pas que nous sommes à peu près parmi les champions d'Europe du chômage. Malgré des budgets sociaux qui sont les plus importants de toute l'OCDE, 31,5%, nous avons un nombre de pauvres aberrant, malgré une dépense publique qui est là aussi la première d'Europe, nous avons des services publics qui fonctionnent extrêmement mal. On parlait de l'hôpital, on peut parler effectivement du ferroviaire, et voilà.
Mais ça, c'est donc un bilan que vous faites toujours un an après.
Non, ce que je veux dire, c'est que ces différents problèmes sont en train d'être pris en charge des uns derrière les autres. Voilà, on a mis 35 milliards, le gouvernement a mis 35 milliards sur la table pour que la SNCF soit dans un état à peu près descend de compétition quand la concurrence va s'ouvrir. C'est pas rien, il va falloir les payer. Le code du travail qui faisait qu'effectivement dans ce pays on ne créait pas d'emploi parce que c'était terrible de créer des emplois, le chômage a baissé. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant que le chômage baisse, et j'espère qu'il va continuer à baisser. Donc oui, un ensemble de réformes. Et puis maintenant, il y a la réforme effectivement de la formation professionnelle, il y a la réforme de l'entrée à l'université. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est plus trié sur la base quand même des loteries qui avaient lieu jusqu'aux années récentes pour entrer dans l'université. C'est pas complètement rien, ça aussi. Donc oui, il y avait un ensemble de problèmes qui avaient été mis sous de poussière, qui avaient été cachés sous les tapis depuis des quinquennats, et cette poussière aujourd'hui, elle est en train d'être balayée, et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc moi je suis vraiment pas du tout d'accord pour dire que le bilan est terriblement négatif et que on a affaire à un autoritarisme qui travaille au service que c'est le président des riches, c'est vraiment ridicule.
Allez-vous réussir à faire le même exercice de synthèse que tout à l'heure Anastasia Colosimo entre ce que dit Aude Lancelin et ce que dit Brice Couturier sur le bilan de cette première année de Macronie?
Non, là ça va être un peu compliqué là, mais je peux essayer, je me lance.
Allez, chiche.
Je pense que là où je serais tout à fait d'accord avec Brice Couturier, c'est que le pays allait très très mal au moment des élections. Que le pays allait mal pour un tas de raisons objectives, effectivement économiques, sociales, etc. Mais aussi pour des raisons très subjectives, c'est-à-dire qu'il y avait une tension, et je pense qu'on a même oublié la tension qu'il y avait avant le premier tour, quand on ne savait pas qui il y aurait au premier tour, il y avait une tension extraordinaire dans le pays. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Je pense que beaucoup de gens l'ont vécu comme ça. Il y avait une indétermination sur ce qui allait arriver. Et il y avait aussi une colère extraordinaire, et je pense qu'elle était très partagée par les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Colère, et là, je rejoins Aude Lancelin, qui, à mon sens, n'était pas du tout illégitime. Vous avez vu, je m'en sors pas si mal. Qui n'était pas du tout illégitime, puisque... effectivement, ça allait mal. Sur un tas de questions et sur ces deux axes hein, dont on a parlé tout à l'heure, l'axe à la fois économique et l'axe sociétal. Ensuite, ce qui se passe depuis un an, c'est que Emmanuel Macron et son gouvernement ont décidé d'entreprendre des réformes à marche forcée. D'une part, ce qu'on peut noter, c'est que s'il y avait encore une hésitation, et d'ailleurs, c'est pas très grave, hein, je veux dire... C'est pas très grave d'être de droite, mais s'il y avait encore une hésitation, Emmanuel Macron gouverne à droite, plutôt à droite qu'à gauche, et ça, encore une fois, à la fois sur les questions économiques et sur les questions sociétales.
Ensuite, même s'il ne l'assume pas de cette façon-là.
Bien sûr, il ne l'assume pas de cette façon-là, mais je pense que c'est assez évident aujourd'hui. D'ailleurs, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de voir que l'opposition, en fait, des Républicains est quasi inexistante, parce qu'elle est complètement avalée, en fait, par la machine macronienne, tandis que la gauche, sans doute, arrive mieux à exister, parce que l'opposition à gauche est quelque part plus naturelle par rapport aux réformes qui sont menées. Ensuite, on ne peut pas non plus déplorer, et là j'essaierai vraiment d'être dans la neutralité, je ne suis pas pour la politique de l'efficacité à tout prix, je ne pense pas qu'il faut être efficace, ça suffit à faire une bonne politique. Mais ce qui est certain, c'est que des réformes sont faites, et que tant qu'on ne verra pas les résultats, tant qu'on ne pourra pas juger sur pièce et sur place, c'est un peu difficile aussi de reprocher à un gouvernement d'essayer de changer les choses. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut quand même essayer de garder à l'esprit... tout en, et là encore une fois, hein, je suis d'accord avec Aude Lancelin, les réformes ne vont pas dans le sens toujours du peuple. Les réformes ne vont pas toujours dans le sens de ce qu'on aurait pu espérer, même par rapport à la campagne d'Emmanuel Macron. Mais sur un certain nombre de questions, il y a un changement qui se perd beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et donc, il faut maintenant attendre et voir ce que ça va donner.
Je précise pour tous nos auditeurs qui ne peuvent pas nous voir hein, que Anastasia Colosimo est assise entre Brice Couturier et Aude Lancelin, ce qui l'oblige peut-être aussi à essayer de ménager et l'un et l'autre. Sylvain Bourmeau.
Si on cherchait une preuve, au fond, du fait que ce gouvernement gouverne à droite, il suffit de regarder cet incroyable lapsus visuel dans Paris Match cette semaine de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui se tient sur une seule jambe, la jambe droite. Je ne sais pas si c'est le photographe...
Vous avez remarqué que c'était sur la jambe droite.
Je ne sais pas si c'est...
Vous poussez le vis quand même très très loin.
Je ne sais pas si c'est le photographe qui lui a suggéré de s'appuyer sur cette seule jambe.
C'est vrai que la photo est géniale. Hein.
Mais la photo est assez incroyable.
Enfin, génial.
Oui, enfin, quand la communication politique de ce niveau-là et laisse à désirer, c'est pas très disruptif pour le coup. Mais en tous les cas, sur la question des réformes, moi, il y a un certain nombre de réformes que mène ce gouvernement qui sont, à mes yeux, très choquantes et plus que contestables. Mais si on les met bout à bout, je trouve pas qu'en un an, ce gouvernement est tellement réformé, tout changé, tout disrupté. Comparons un instant, et je me suis fait la réflexion en voyant une très très intéressante pièce de théâtre proposée actuellement au Vieux Colombier à la Comédie Française, écrite par David Lescaut sur les radios libres et qui fait écho aux premières années de la gauche au pouvoir. Et cette pièce est l'occasion pour David Lescaut de scander les réformes. Les réformes mises en œuvre par la gauche entre le mois de juin 1981 et, disons, le tournant de 1983. C'est très impressionnant, cette liste. Quand on regarde la vitesse à laquelle ces réformes profondes, sociales, économiques, les nationalisations, la cinquième semaine, la retraite à 60 ans, enfin tout un tas de choses qui font partie des avancées menées par la gauche. Alors je veux bien que la gauche ait été renégate, comme le disait Aude Lancelin, mais enfin il y a des moments qui ne sont pas si lointains dans l'histoire de France où la gauche socialiste a su véritablement mener une politique, je ne sais pas si on peut dire disruptive, mais en tous les cas, de changement radical. Alors certes, pour après changer à nouveau, mais il y a eu 2 ans, en tous les cas, qui tranchent par rapport à tout ce qu'on a vu depuis à l'œuvre, à la suite de n'importe quelle élection dans ce pays. Et si on compare ce qu'a fait Emmanuel Macron à l'aune de ce qui a été fait sur cette période 81-83, mais il n'a pas fait grand-chose, Emmanuel Macron. Donc, je crois que c'est quand même intéressant de remontrer les choses. C'est d'autant plus intéressant que je crois que le succès de ce mot de disruption, que ce soit à l'échelle du pays ou dans les entreprises, où il est beaucoup utilisé aussi, tient au fait que les gens qui dirigent ont le sentiment de rien pouvoir changer, que tout est complètement enquisté, que les gens sont dans leur conservatisme et que, du coup, au lieu de penser à des stratégies de réforme efficaces, ils en viennent à théoriser le coup de pied dans la fourmilière comme méthode de management dans les entreprises ou de gouvernement dans les pays.
Donc plus on parle de disruption, mais on réforme. Quoi,
c'est ça, je doute un peu du fait que ce soit la bonne méthode pour changer les choses en profondeur. En fait, c'est pas juste un énervement. Or, l'élection d'Emmanuel Macron participe un peu d'une sorte d'énervement comme ça, qui tient à l'usure, à mes yeux, de la politique professionnelle. On a un problème, et on n'est pas les seuls. La France n'est pas le seul pays. C'est, de ce point de vue-là, je rejoins l'analyse qui a été faite au tout début. C'est-à-dire qu'il faut comparer. Mais je crois que c'est pas en élisant des gens qui vont nous dire il suffit de donner un bon coup de pied là-dedans pour tout régler qu'on réglera le problème.
Si on compare, justement, que vaut la comparaison pour la France et pour ces un an de bilan d'Emmanuel Macron au pouvoir, Aude Lancelin?
Bah, non, mais moi, je pense que cette apparence de célérité, d'accélération du temps politique et de violence véritable. Hein, là, par contre, c'est pas une apparence, hein, parce que bon, là, on n'a pas parlé. Brice Couturier ironisait sur le président des riches, mais enfin, les premières mesures qui ont été prises, c'est quand même la baisse des aides au logement pour les étudiants modestes et l'exonération d'impôts sur les patrimoines financiers. Donc c'est plus que du symbole. On est dans des mesures très lourdes quand même. Donc moi je pense que cette apparence de célérité là, elle vient du monde des affaires en réalité. Là, je dois dire que je suis tombée sur une analyse politique il y a quelques jours qui n'est de quelqu'un, Pascal Casanova, qui n'est pas nécessairement ma tasse de thé intellectuelle, mais qui était d'une pertinence totale, puisqu'il disait la chose suivante. En fait, Emmanuel Macron est un raideur. C'est la tactique qu'il applique, elle vient du monde de la banque, c'est-à-dire dans le monde des affaires, on rachète une boîte qui un peu brinque-ballante, qui a des problèmes de gouvernance, on s'installe comme un coucou à l'intérieur et on commence à la vendre appartement par appartement, voilà. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver à la France. C'est un peu ce qui est en train d'arriver à la France. Tout ça n'a pas une cohérence intellectuelle, civilisationnelle. Tout ça n'a pas une ambition, n'est pas une politique ambitieuse pour notre pays. Tout ça vise à produire rapidement du cash flow pour les plus riches. Voilà la politique qui est aujourd'hui menée.
Une politique qui est menée uniquement en France ou qui est une politique qui est menée plus
une politique qui à vrai dire est menée aussi par Donald Trump, qui n'est pas un populiste, qui est un plutocrate, qui s'est fait élire sur une tonalité prétendument souverainiste et pro-classe populaire, etc., et qui évidemment a roulé dans la farine ses électeurs et qui applique une politique fiscale notamment absolument inique.
Anastasia Colosimo, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir sur même le choix de ce mot disruption. Effectivement, ce qui reste sans doute le plus inquiétant, c'est que c'est l'apparition de tout ce vocabulaire qui n'est en fait qu'un signe aussi d'une certaine disparition. Moi, je vais même au bout du process d'une certaine disparition civilisationnelle, culturelle. Il y a quelque chose de très gênant dans l'apparition de ces mots, dans l'apparition de ce management qui finit par s'incruster partout, dans ces manières très à l'américaine et dans cette agitation, effectivement, où on pense que l'efficacité à elle seule suffit à faire une politique, que la disruption à elle seule porte un bel avenir, etc.
Parler de disruption, Brice Couturier, c'est déjà justement donner une indication sur le type de politique, sur une façon de faire de la politique, en tout cas.
Écoutez, Le mot terme disruption vient, on le sait, du monde de l'économie et en particulier du marketing. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation ? Une innovation disruptive, c'est un produit ou un service qui finit par remplacer une technologie dominante sur un marché en remplissant une fonction que la technologie précédente ne remplissait pas. L'exemple courant en économie, c'est le container qui est l'outil même de la mondialisation avec les communications numériques. C'est ces deux outils, si vous voulez, si on les met bout à bout, qui ont produit la mondialisation, parce qu'il y a une rationalisation formidable de l'embarquement sur des bateaux, sur des paquebots pour aller loin, des produits fabriqués en Chine ou ailleurs vers leur pays de destination. Donc c'est ça une disruption. Alors maintenant, est-ce que encore une fois, je trouve que c'est très dommage de se concentrer sur la France et sur Macron, parce qu'en réalité, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même une crise majeure de l'ensemble de nos démocraties occidentales. C'est une rupture conséquente de l'ordre libéral mondial tel qu'il avait été conçu par les Américains, comme en particulier par Bill Clinton, ou cet ordre qui faisait en sorte que la mondialisation se déroule d'une manière relativement équilibrée, qu'il y ait des agences internationales qui la régissent, qu'il y ait un ordre international, un droit international, et qui progressivement vidait de substance, en effet, la souveraineté nationale. Et ce à quoi on assiste, et c'est ça la disruption en réalité, c'est une révolte des peuples contre cet ordre libéral mondial, parce qu'une partie des populations, pas la totalité, mais une partie des populations sent, non sans raison, qu'elle n'en bénéficie pas, et même qu'elle y perd. On voit bien que les classes moyennes inférieures dégringolent, que la mobilité sociale qui était très forte aux États-Unis est en baisse, que dans certaines régions de France où il y avait des industries prospères aujourd'hui, il y a du chômage, et que les enfants de ceux qui votaient pour le Parti communiste aujourd'hui votent pour le Front National. Ce phénomène, on le voit à l'échelle de l'ensemble de la planète. L'autre grande disruption, et je regrette qu'on n'en ait pas parlé parce que c'est très très important, c'est que la démocratie libérale aussi est en crise. On vient d'assister à la réélection d'Erdogan en Turquie, on a assisté cette année à la réélection de Poutine en Russie, on a assisté à la réélection d'Orban en Hongrie. On voit bien que le modèle démocratique libéral tel que nous avons l'impression qu'il va fonctionner éternellement est aujourd'hui miné de l'intérieur par ces démocrates illibéraux, par ces gouvernants populistes qui, en réalité, on le vend en poupe. Nous, on est une exception à l'échelle de la planète parce qu'on n'a pas cédé à ce vent-là. Mais les Anglais ont voté pour le Brexit. Enfin bref, et puis les Italiens viennent d'élire un gouvernement de populistes de droite et de n'importe où. Parce que le 5 étoiles, franchement. Les Autrichiens viennent de mettre au pouvoir un gouvernement droite-extrême droite. Donc ce populisme progresse, il progresse à toute vitesse en Europe, aux États-Unis, partout. L'illibéralisme progresse également et l'ordre international qui avait été conçu par ces démocrates libéraux des années 80 et 90 est en train de s'écrouler sous nos yeux. Tout ça est très inquiétant et il n'y a vraiment aucune raison de s'en réjouir.
Et c'est d'ailleurs un des épisodes de ce Club du Grain qu'on avait consacré, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, je crois que vous étiez là d'ailleurs, Brice Couturier, à cette question des démocraties illibérales. Évidemment, on revient sur un certain nombre de questions, de toute manière qu'on a déjà évoquées cette année, mais puisqu'on est déjà presque au terme de cette discussion, et lorsque nous vous avons sollicité pour participer à ce dernier club, à vous posant la question, mais où est passée la disruption, en disant, qu'est-ce que vous répondriez ? Vous, Anastasia Colosimo, je voudrais quand même qu'on en dise un mot, même si là aussi on en a déjà parlé. Vous avez dit une disruption qui, elle, est peut-être venue de la société, enfin pas peut-être, mais qui est venue de la société, avec cette affaire qui au départ est un fait divers, l'affaire Weinstein, et qui s'est transformée en un mouvement qui est un mouvement quand même totalement inattendu. Qui aurait imaginé les conséquences qu'a pu avoir cette affaire Weinstein ? Anastasia Colosimo, là on est dans la disruption aussi.
On est dans la disruption totale et on est en même temps dans tout ce que la modernité peut produire de formidable et de absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a eu d'une part quelque chose de louable et de nécessaire qui a été la libération de la parole des femmes, la libération par rapport aux violences réelles que subissent les femmes et quasi instantanément ce mouvement-là, qui était un mouvement, à mon avis, très important, quasi instantanément, ce mouvement a été sali par une espèce de chasse aux sorcières qui s'est opérée aux États-Unis, mais aussi en France, avec des phénomènes dont on peut vraiment se demander quelle était leur place, comme Balance ton porc ou d'autres. Et on voit très bien que c'est un peu... toujours le problème aussi des mouvements qui viennent de la société civile, c'est-à-dire que c'est aussi évidemment lié au fait que la parole, sans doute, a longtemps été impossible sur ces sujets-là, mais on a vécu une espèce, à la fois, encore une fois, de moments nécessaires et en même temps de psychose collective très forte, une espèce de soupçon qui s'est abattu tout d'un coup sur les relations hommes-femmes de manière générale, où on a commencé à confondre ce qui était un viol, une agression sexuelle et une remarque désobligeante. Et donc, c'est une disruption énorme. Il faut espérer que les mauvais effets, la mauvaise part du phénomène va s'estomper pour laisser la place seulement à la bonne part. Voilà.
De Lancelin, sur cette question.
Non, mais je ne suis pas en désaccord avec Anastasia sur la question. Effectivement, ce phénomène qui a surgi nous a tous surpris et moi, m'a énormément appris aussi. Je regrette effectivement qu'il ait tourné dans certains cas à une chasse aux sorcières parfois pénible. Et surtout, je regrette qu'il n'ait pas débouché sur une réflexion globale sur les rapports de domination entre hommes et femmes dans la société en général. Parce qu'on s'est concentré sur le sexe, on s'est concentré sur les affaires de braguettes, etc. Or, ce problème-là a des racines, des causes beaucoup plus profondes qui, apparemment, elles, font moins recette dans les magazines féminins et autres.
Si la réflexion sur le sujet vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre à Montpellier, de Lancelin et tout le monde d'ailleurs, pour les prochaines rencontres de Pétrarque, puisqu'à partir du 9 juillet jusqu'au 13, on va justement s'intéresser aux conséquences qu'aura eu ce mouvement MeToo, notamment Hommes-Femmes des lendemains qui changent. Ce sera le thème de notre semaine et ce sera de 17h à 18h30 dans la cour du rectorat à Montpellier. Ça, c'était la petite pub. Et pour conclure justement sur ce sujet-là, Sylvain Bourmont, et pour conclure l'émission. Et
je rebondirai sur ce que vient de dire Aude Lancelin en terminant, c'est-à-dire le rôle des médias dans cette affaire. Parce que je ne crois pas du tout que ce soit né de ce que Anastasia appelait la société civile. Je pense qu'au contraire...
C'est né d'un article, effectivement. Ça a été porté par les médias.
Je pense
énormément.
Que c'est né d'un article, mais surtout, c'est né des réseaux sociaux, de prise de parole personnelle. Et je pense qu'à certains égards, c'est le contraire de la société civile. Ce que j'entends par société civile, c'est des organisations, c'est des citoyens organisés dans des associations, dans des syndicats. Or, sur ces questions d'égalité homme-femme, par exemple, il y a depuis longtemps des mouvements qui portent ces revendications. Et on voit bien qu'ils ont été court-circuités, en quelque sorte. Et je pense que... Alors, cet épisode a été salutaire parce qu'il a permis d'inscrire à l'agenda politique cette question. Mais maintenant, ce qu'on peut espérer de mieux, c'est qu'au lieu d'être porté par les subjectivités et un peu n'importe comment, parfois, il soit porté mieux par les organisations. Et le problème, c'est que c'est la démonstration qu'on a besoin de corps intermédiaires pour faire vivre un espace public et une démocratie. Et qu'on ne peut pas fonctionner avec juste un président de la République et des comptes Twitter. Ça peut valoir pour Trump et pour Macron, ça. On a besoin d'une vraie société civile.
Manquons-nous de corps intermédiaires ? Tiens, voilà qui pourrait être un sujet pour le grain à moudre d'été, car si le grain d'hiver, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, d'automne, d'hiver et de printemps s'achève ce soir, le grain à moudre d'été prend la relève à partir de lundi avec Raphaël Bourgois. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Hervé. Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Ben moi ça va bien, avant vos vacances.
Voilà, ben moi ça va bien aussi justement pour la même raison. Vous enchaînez donc lundi.
Dès
avec
lundi.
Quel sujet ?
Ben écoutez, je vous remercie de me faire ma programmation. Ce ne sera pas le sujet que vous avez évoqué. On va parler des ONG et d'immigration vers une criminalisation des ONG. Voilà, ce sera notre sujet de lundi. Je vous laisse... secret le programme des invités. Enfin, je peux vous les donner. Jacques Maire, qui est député LREM, Françoise Boucher-Saunier, qui est la directrice juridique de MSF, et Virginie Guiraudon, qui est une chercheuse spécialiste de ces questions. Voilà, puis on va continuer, parce que le grain à moudre d'été, c'est un peu comme le grain à moudre, mais pendant l'été.
Voilà, avec 5 minutes en plus, ça commence dès 18h15.
Exactement.
Hein, donc soyez à l'heure.
Et en revanche, on n'aura pas la chance d'être ici au Bel Air en public. On va laisser vos chroniqueurs partir en vacances pour certains d'entre eux.
Voilà, puisqu'Aude Lancelin, Anastasia Colosimo, Sylvain Bourmont, Guillemot et Brice Couturier seront de retour pour le club des idées du grain à partir de la rentrée. À partir de la rentrée, ce sera fin août, précisément.
Le 27.
Merci beaucoup, Raphaël Bourgois. Merci évidemment à toute l'équipe du grain qui nous a accompagnés toute cette année. Un merci tout spécial à Prune Saez, notre stagiaire qui mérite de figurer en tête, en tout cas dans les premières du classement. Voilà, de nos stagiaires préférés.